Souvenirs, première partie enfance, chapitre 14. Les Yvines.
Volodia! Volodia! Les Yvines!
Criai-je en apercevant par la fenêtre trois jeunes garçons en paletot bleu à collet de castor qui traversaient la rue en face de notre maison, précédés d'un jeune gouverneur élégant. Les Yvines étaient nos parents, et à peu près de notre âge. Nous avions fait leur connaissance en arrivant à Moscou et nous nous étions liés. Le second des Yvines, Serge, était brun et frisé. Il avait un petit nez retroussé et ferme, des lèvres très rouges et très fraîches, qui laissaient presque toujours apercevoir ses dents blanches, un peu trop en avant. Les yeux, d'un bleu foncé, étaient superbes, l'expression du visage singulièrement hardie. Jamais il ne souriait. Ou bien il était tout à fait sérieux, ou bien il riait aux éclats, d'un rire sonore, juste et extraordinairement séduisant. Sa beauté originale m'avait frappé dès le premier coup d'œil. Je me sentais irrésistiblement attiré vers lui. Il me suffisait de le voir pour être heureux. Mais toutes les forces de mon âme étaient concentrées dans le désir de ce bonheur. Lorsqu'il m'arrivait de rester 3 ou 4 jours sans le voir, je commençais à m'ennuyer et je devenais triste à pleurer. Endormi ou éveillé, je ne rêvais qu'à lui. Je me couchais en souhaitant de rêver à lui. Je fermais les yeux, je le voyais, et je cherchais à retenir cette vision chérie, la plus délicieuse des jouissances. Je n'aurais confié à personne au monde ce que j'éprouvais. Mon sentiment m'était trop cher. Quant à lui, soit qu'il trouvât ennuyé de rencontrer perpétuellement mes yeux inquiets fixés sur lui, soit plus simplement que je ne lui inspirasse aucune sympathie, il aimait beaucoup mieux jouer et causer avec Volodia qu'avec moi. J'étais néanmoins satisfait. Je ne désirais rien, je n'exigeais rien, j'étais prêt à tout lui sacrifier. L'attrait passionné qu'il exerçait sur moi se mélangeait d'un autre sentiment non moins violent. La crainte de lui faire de la peine, de le froisser en quelque chose, de lui déplaire. C'était peut-être l'expression hautaine de sa physionomie, peut-être le prix exagéré que la honte de ma laideur me faisait attacher à la beauté chez les autres. Peut-être, et c'est le plus probable, l'effet infaillible de l'affection. En tout cas, ma crainte était égale à ma tendresse. La première fois que Serge m'adressa la parole, je demeurai tellement étourdi de ce bonheur inattendu que je pâlis, rougis et ne pus proférer un mot. Il avait la mauvaise habitude, quand il réfléchissait, de regarder fixement le même point, en clignotant des yeux et en grimaçant avec son nez et ses sourcils. On s'accordait à trouver que cela le gâtait. Pour moi, ce tic me parut si joli que je me mis involontairement à l'imiter. Quelques jours après notre première rencontre avec les Yvines, grand-mère demanda si j'avais mal aux yeux et pourquoi je clignotais comme une chouette. Jamais un mot affectueux ne fut prononcé entre Serge et moi. Il sentait son pouvoir et il l'exerçait inconsciemment, mais tyranniquement. Moi, quelque envie que j'eusse de lui dire tout ce que j'avais dans le cœur, je le craignais trop pour oser parler. Je m'efforçais de paraître indifférent et je me soumettais avec résignation. Sa domination me semblait parfois lourde, insupportable, mais j'étais incapable de la secouer. Je ne pus penser sans tristesse à ces sentiments frais et purs, à cette tendresse immense et désintéressée, qui mourut sans s'être épanchée et sans avoir éveillé d'écho. Chose singulière, quand j'étais enfant, je tâchais de ressembler aux grands, et dès que j'ai été grand, j'ai eu envie de ressembler aux petits. Que de fois, dans mes relations avec Serge, la crainte d'avoir l'air enfant m'a fait refouler mes sentiments et m'a rendu hypocrite. Non seulement je n'osais pas l'embrasser, quoique j'en eusse parfois une envie extrême, ni le prendre par la main, ni lui dire que j'étais content de le voir, mais je n'osais pas l'appeler par son petit nom de Serioja, et je lui disais toujours Serge. C'était établi ainsi entre nous. Toute marque de sensibilité nous paraissait enfant. Nous n'avions pas encore traversé les expériences amères qui rendent les grandes personnes prudentes et réservées dans leurs relations, et nous nous privions des joies innocentes, des douces amitiés d'enfance, uniquement pour le singulier plaisir de contrefaire les grands. Je courus au-devant des Ivines jusque dans l'antichambre. Je leur dis bonjour, et je me précipitai à corps perdu chez grand-mère, à qui j'annonçai leur arrivée, du même ton et de la même figure que si cette nouvelle devait rendre grand-mère profondément heureuse. Je les suivis ensuite au salon, sans quitter Serge du regard et sans perdre un de ses mouvements. Lorsque grand-mère fixa sur lui ses yeux perçants, en disant qu'il avait beaucoup grandi, je ressentis le mélange de crainte et d'espoir de l'artiste dont l'œuvre est soumise à un juge respecté et qui attend son verdict. Nous allâmes jouer. Serge tomba en courant et se cogna le genou si fort que je crus qu'il se l'était cassé. Non seulement il ne pleura pas, mais il se remit à jouer comme si de rien n'était. Je ne saurais exprimer l'effet que me produisit cet héroïsme. J'eus bientôt une autre occasion d'admirer encore plus son courage et la fermeté extraordinaire de son caractère. Iline Grappe était aussi venue jouer avec nous. Iline était fils d'un étranger pauvre, à qui mon grand-père avait jadis rendu service, et qui se faisait à présent un devoir de nous envoyer très souvent son fils. S'il se figurait que ce dernier pût retirer honneur ou plaisir de notre connaissance, il se trompait entièrement. Non seulement nous n'étions pas aimables pour le jeune Crappe, mais nous ne nous occupions de lui que pour nous en moquer. Il avait 13 ans. Il était grand, maigre, pâle, avec une vilaine figure d'oiseau et une expression débonnaire et humble. Ses vêtements étaient très pauvres, mais il mettait toujours tant de pommade que nous prétendions qu'elle fondait les jours de soleil et coulait dans son cou. Quand je pense maintenant à Grappe, je me dis que c'était un très bon petit garçon, doux et serviable. Dans ce temps-là, il me faisait l'effet d'un de ces êtres méprisables qui ne méritent même pas qu'on les plaigne et qu'on pense à eux. Nous étions en train de nous livrer à divers exercices gymnastiques. Iline nous considérait avec un sourire d'admiration timide, et toutes les fois que nous lui proposions d'essayer de nous imiter, il refusait en disant qu'il n'avait aucune force. À l'un de ses refus, Serge alla à lui. « Pourquoi est-ce qu'il ne veut rien faire? Quelle fille! Il faut qu'il se tienne sur la tête !» Et Serge le saisit par le bras. « Oui, oui, sur la tête !» criâmes-nous en entourant Iline, qui eut peur et pâlit. « Laissez-moi, vous déchirez ma veste !» criait la pauvre victime. Ces cris ne firent que nous exciter davantage. Nous nous tordions de rire. La veste d'Iline craquait sur toutes les coutures. Nous lui mîmes la tête sur un dictionnaire, l'empoignâmes par ses pauvres jambes maigres et le soulevâmes les pieds en l'air. Il arriva que tout à coup, nos rires bruyants s'arrêtèrent. Il se fit dans la chambre un si profond silence qu'on n'entendait que la respiration oppressée du malheureux Grappe. En cet instant, je n'étais plus bien sûr que ce fût très drôle et très amusant. Nous le lâchâmes, il tomba, et tout ce qu'il put dire à travers ses larmes fut « Pourquoi me tourmentez-vous ? » Quand nous vîmes cette figure lamentable, bouffie à force de pleurer, ses cheveux en désordre, ses pantalons remontés et découvrant des tiges de bottes sales, nous éprouvâmes un certain malaise. Nous nous taisions tous avec des sourires contraints. Serge, à qui Iline, en se débattant, avait donné un coup de pied dans l'œil, fut le premier à se remettre. « Vieille femme, va, chiffon » dit-il en le poussant du pied. « On ne peut pas plaisanter avec lui,
Tu es un méchant !» dit Iline en sanglotant.
« Ah ! On donne des coups de pied et on se plaint !»
cria Serge en saisissant le dictionnaire et en le brandissant. « Tiens, attrape !» Je regardais avec compassion le pauvre petit, toujours étendu à terre. Il se protégeait la figure avec les mains et pleurait si fort qu'on aurait dit qu'il allait expirer dans une convulsion.
« Oh, Serge » dis-je, « pourquoi as-tu fait cela ?»«
Bon, est-ce que j'ai pleuré, moi, quand je me suis presque cassé la jambe ?»«
C'est vrai, » pensais-je, « Grappe n'est qu'un pleurnicheur. Mais Serge, en voilà un qui est brave. Est-il brave ?»
Il ne me vint pas à l'esprit que le pauvre petit pleurait moins de la douleur physique que de l'idée que 5 enfants, vers lesquels il se sentait peut-être attiré, se liguaient, sans aucune espèce de raison, pour le haïr et le persécuter. Je ne m'explique vraiment pas ma cruauté en cette circonstance. Comment n'ai-je pas été à lui? Comment ne l'ai-je pas défendu et consolé? Qu'était devenue la compassion qui me faisait pleurer à chaudes larmes au spectacle d'un jeune chouka tombé de son nid, ou d'un chien nouveau-né qu'on allait jeter, ou d'une poule que le marmiton emportait pour la mettre au pot? Ce précieux sentiment était-il étouffé par ma passion pour Serge et par le désir de lui paraître aussi déterminé que lui? Triste passion et triste désir. C'est à eux que je dois les seules tâches des pages où j'inscris mes souvenirs d'enfance. Chapitre 15. Arrivée des invités. On attendait beaucoup de monde pour le soir. Il était aisé de le deviner à l'agitation qui régnait à l'office et au brillant éclairage qui donnait une physionomie nouvelle et un air de fête aux objets familiers du salon et de la grande salle. D'ailleurs, le prince Ivan Ivanovitch avait envoyé sa musique, et il était clair que ce n'était pas pour rien. Chaque fois que j'entendais une voiture, je me précipitais à la fenêtre. Je plaçais mes mains en abat-jour sur mes deux tempes, et je regardais dans la rue, le nez collé aux vitres, avec curiosité et impatience. Au premier moment, tout paraissait noir. Peu à peu, notre vieille connaissance, la petite boutique d'en face, émergeait de l'obscurité avec sa lanterne. C'était ensuite le tour de la grande maison à côté, avec ses deux fenêtres du bas éclairées. Enfin, du milieu de la rue, se profilaient quelques misérables traîneaux de louage ou un cocher rentrant chez lui à pied. Une voiture vint enfin se ranger devant le perron. Convaincu que c'était les Ivines qui avaient promis de venir de bonne heure, je courus à leur rencontre jusque dans l'antichambre. Au lieu des Ivines, derrière le bras en livrée qui ouvrait la porte, apparurent deux personnes du sexe féminin. L'une, grande, enveloppée dans un manteau bleu à col de zibeline. L'autre, petite, tout emmitouflée dans un châle vert, d'où ne sortaient que deux petits pieds dans de petites bottes fourrées. Je crus de mon devoir de faire un salut, mais la petite personne alla se placer devant la grande, sans prêter aucune attention à ma présence, et resta immobile. La grande dénoua le mouchoir qui enveloppait la tête de la petite et défit le châle. Quand le laquais eut pris ses objets et ôté les petites bottes fourrées, à la place de la personne emmitouflée apparut une ravissante fillette d'une douzaine d'années, en robe de mousseline courte et décolletée et en pantalon blanc. Elle avait de mignons petits souliers noirs et un velours noir à son cou blanc. Sa petite tête était toute frisée, et ses boucles châtaines seyaient si bien à son charmant visage et à ses épaules nues que Karl Ivanovitch lui-même n'aurait jamais pu me faire croire que ses cheveux frisaient parce qu'ils avaient été toute la journée en papillote dans des morceaux de la Gazette de Moscou et parce qu'on les avait pressés avec un fer chaud. Pour moi, elle avait dû naître avec cette tête frisée.
Les yeux étaient ce qui frappait dans sa figure. Ils étaient immenses, bombés, très couverts, et leur grandeur formait un contraste singulier, mais agréable, avec la petitesse de la bouche. Les lèvres étaient serrées, et le regard, dont l'expression sérieuse se communiquait à la physionomie tout entière, en faisait un de ces visages de qui l'on n'attend point de sourire et dont le sourire est d'autant plus ensorcelant. Je me glissai dans la salle en évitant d'attirer l'attention, et je jugeai indispensable de me promener de long en large, de l'air d'un homme absorbé qui ne s'aperçoit pas du tout qu'il arrive du monde. Quand les invités furent à la moitié de la salle, je feignis de sortir tout à coup de ma rêverie, fis la révérence et expliquai que ma grand-mère était dans le salon. Madame Valakine m'adressa un signe de tête bienveillant. Sa figure me plut beaucoup, parce que je lui trouvais une grande ressemblance avec sa fille Sonia. Grand-mère parut ravie de voir Sonia. Elle la fit approcher, arrangea une boucle qui s'entêtait à retomber sur son front, et dit en la regardant fixement « Quel charmant enfant !» Sonia sourit, rougit, et devint si jolie que je rougis aussi en la regardant. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas chez moi, ma mignonne !» dit grand-mère en la prenant par le menton et en relevant sa petite figure. « Je te prie de bien t'amuser et de beaucoup danser. Nous avons déjà une dame et deux cavaliers » ajouta-t-elle en s'adressant à Madame Valakine et en me touchant de la main. Ce rapprochement me fut si agréable que je rougis de nouveau. Sentant ma timidité s'accroître et entendant arriver une autre voiture, je crus devoir m'éloigner. Je trouvai dans l'antichambre la princesse Kornakoff avec son fils et un nombre invraisemblable de filles. Celles-ci avaient toutes la même figure. Elles ressemblaient toutes à leur mère et étaient toutes laides. Grâce à cette similitude, aucune n'attirait l'attention. Lorsqu'elles eurent ôté leurs manteaux et leurs boas, elles se mirent soudain à babiller toutes à la fois avec de petites voix grêles et à rire, probablement de se voir si nombreuses. Le fils, Étienne, était un garçon de 15 ans, grand et bien en chair, avec un visage défait, des yeux creusés et cernés, des pieds et des mains énormes pour son âge. Il était gauche et avait une voix désagréable et inégale, mais paraissait enchanté de lui. C'était tout à fait ainsi que je me représentais un garçon à qui l'on donne le fouet. Nous restâmes assez longtemps debout, l'un en face de l'autre, ne disant rien, et nous considérant attentivement. Nous fîmes ensuite un mouvement en avant, comme pour nous embrasser, mais nous étant encore regardés les yeux dans les yeux, nous nous ravisâmes. Quand les robes de toutes les sœurs passèrent devant nous avec un froufrou, je demandais à Étienne, pour entamer la conversation, s'il n'avait pas été bien serré dans la voiture. « Je n'en sais rien, » me répondit-il négligemment. « Je ne vais jamais dans la voiture, parce que maman sait que ça me donne tout de suite mal au cœur. Quand nous sortons le soir, je vais toujours sur le siège, c'est bien plus amusant. On voit tout, et Philippe me laisse conduire. Quelquefois, je prends le fouet. Et les passants, vous savez, quelquefois... » Il fit un geste expressif. « C'est si amusant !»« Excellence !» dit un laquais en entrant. « Philippe demande où vous avez mis le fouet. »«
Comment ? Où je l'ai mis ? Je lui ai rendu ?»«
Il dit que non. »«
Alors je l'ai accroché à la lanterne. »«
Philippe dit que non, et vous feriez mieux de dire que vous l'avez pris et que vous l'avez perdu. Sans ça, Philippe sera obligé de payer vos polissonneries de son argent. »
continua le laquais irrité en s'animant de plus en plus. Cet homme avait un air respectable et hargneux. À la chaleur avec laquelle il prenait le parti de Philippe, on sentait qu'il était décidé à tirer, à tout prix, cette affaire au clair. Par un sentiment spontané de délicatesse, je me retirai à l'écart en feignant de ne rien voir ni entendre.
Les laquais qui se trouvaient dans l'antichambre agirent d'une façon tout opposée. Ils se rapprochèrent et regardèrent le vieux serviteur d'un air approbateur. « Eh bien, c'est bon, je l'ai perdu !» dit Étienne en éludant d'autres explications. « Je lui payerai son fouet. C'est à crever de rire » ajouta-t-il en venant à moi et en m'entraînant vers le salon.
« S'il vous plaît, Barine, avec quoi est-ce que vous payerez? Je sais comment vous payez, moi. En 8 mois, vous avez donné 20 kopecks en tout à Maria Vassilievna, à moi autant en 2 ans, à Pierre...
« Veux-tu te taire ? »
cria le jeune prince en pâlissant de colère.
« Je le dirai. »«
Je le dirai, je le dirai, » fit le laquais.
« Ça n'est pas bien, Excellence !»
cria-t-il avec un redoublement d'énergie au moment où nous entrions dans la salle, et il emporta les manteaux.
« Il a raison, » dit derrière nous, d'un ton approbateur, une voix venue de l'antichambre.
Grand-mère avait un talent à part pour exprimer sa façon de penser sur les gens par la manière de distribuer et d'accentuer les « tu » et les « vous ». Lorsqu'elle employait le singulier ou le pluriel au rebours de l'usage reçu, ces nuances prenaient dans sa bouche une signification toute particulière. Quand le jeune prince vint la saluer, elle lui adressa quelques mots en lui disant « vous » et le toisa avec un tel mépris qu'à sa place, je n'aurais su où me mettre. Mais Étienne était d'une autre patte. Il ne fit aucune attention ni à l'accueil de grand-mère, ni à elle-même, et salua toute la compagnie, sinon gracieusement, du moins d'un air très dégagé. Sonia absorbait toute mon attention. Je me souviens que lorsque nous causions, Volodia, Étienne et moi, dans un endroit de la salle d'où nous apercevions Sonia et d'où elle-même pouvait nous voir et nous entendre, j'avais du plaisir à parler. M'arrivait-il de dire une chose qui me semblait drôle ou crâne, j'élevais la voix et je lançais des coups d'œil par la porte du salon. Lorsqu'au contraire nous nous trouvions dans un endroit où l'on ne pouvait ni nous voir ni nous entendre du salon, je ne prenais plus aucun plaisir à la conversation et je me taisais. Le salon et la salle se remplirent peu à peu. Ainsi qu'il arrive toujours au bal d'enfants, il se trouvait parmi les invités quelques grands enfants qui n'avaient pas voulu perdre une occasion de s'amuser et qui ne dansaient, soi-disant, que pour faire plaisir à la maîtresse de maison. Quand les Ivines arrivèrent, au lieu du plaisir que me causait d'ordinaire l'apparition de Serge, j'éprouvais une sorte d'irritation singulière de ce qu'il allait voir Sonia et en être vu. Chapitre 16. Avant la mazurque.
« Ah, il paraît qu'on va danser chez vous !» dit Serge en sortant du salon et en tirant de sa poche une paire de gants de peau tout neufs.
« Il faut mettre des gants. »
« Comment faire ? » pensais-je. « Nous n'avons pas de gants. Il faut monter en chercher. » Mais j'eus beau mettre les commodes sans dessus-dessous, j'y trouvais en tout, dans l'une, nos gants de voyage en laine verte. Dans l'autre, un gant de peau qui ne pouvait me servir à rien pour 3 raisons. Premièrement, il était très vieux et très sale. Secondement, il était trop grand pour moi. Troisièmement, il y manquait le doigt du milieu, que Karl Ivanovitch avait coupé, il y avait très longtemps, pour s'en faire un doigtier, un jour où il avait eu mal à la main. Je mis pourtant ce reste de gants, et je considérais fixement mon doigt du milieu, qui était invariablement plein d'encre. Si Nathalie Savishna était ici, on trouverait des gants dans ses coffres. Impossible de descendre comme ça. Si l'on me demande pourquoi je ne danse pas, qu'est-ce que je répondrais ? Impossible de rester ici. On s'apercevra en bas que je n'y suis pas. Que faire ? Dis-je en agitant les mains.
Qu'est-ce que tu fais ici ? Demanda Volodia qui entra en courant. Viens vite inviter une danseuse. On va commencer.
Volodia ! Dis-je en lui montrant ma main, dont 2 doigts sortaient par le trou du gant sale. et en prenant une voix qui trahissait une situation désespérée.
« Volodia, tu n'as pas pensé à cela ?»«
À quoi ? » fit-il impatiemment.
« Ah, aux gants ! »
ajouta-t-il avec la plus parfaite indifférence en regardant ma main.
« C'est vrai, nous n'en avons pas. Il faudra demander à grand-mère.
Qu'est-ce qu'elle va dire ?» Et sans plus y penser, il redescendit en courant. Le sang-froid avec lequel il traitait une circonstance qui me paraissait si importante me calma. Je me rendis, en hâte, au salon, oubliant complètement l'affreux gant passé à ma main gauche. Je m'approchai avec précaution du fauteuil de grand-mère, la tirai légèrement par son mantelet et lui dis tout bas
« Grand-mère, comment faire? Nous n'avons pas de gants. »
« Quoi, mon ami ?»«
Nous n'avons pas de gants !»
répétai-je en me rapprochant insensiblement et en posant mes deux mains sur le bras du fauteuil.
« Eh bien, et ça ?»
dit-elle en me saisissant tout à coup la main gauche.
« Voyez, ma chère » continua-t-elle en s'adressant à Madame Valakine. « Voyez comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille !»
Grand-mère me tenait vigoureusement et regardait gravement les assistants d'un air interrogateur. Elle ne me lâcha que lorsque la curiosité de tous les invités fut satisfaite et l'éclat de rire général. J'aurais été profondément mortifiée d'être vue par Serge dans cette situation, tout décomposé de honte et faisant de vains efforts pour retirer ma main. Mais je n'éprouvais aucun embarras vis-à-vis de Sonia, qui riait si fort qu'elle en pleurait et que ses boucles dansaient autour de sa petite figure empourprée. Je compris que son rire était trop franc pour être méchant. Au contraire, le fait que nous rions ensemble en nous regardant constituait un rapprochement. L'épisode du gant, qui aurait pu mal tourner, eut l'avantage de me mettre à mon aise avec la société du salon, qui m'avait toujours paru horriblement effrayante. Dans la salle, je n'étais pas le moins du monde intimidé. Les souffrances des gens timides proviennent de ce qu'ils ignorent l'impression qu'ils ont produite. Dès que cette impression, quelle qu'elle soit, s'est manifestée clairement, la souffrance cesse. Était-elle gentille, Sonia Valakine, pendant qu'elle me faisait vis-à-vis dans un quadrille avec ce lourdeau de Kornakov? Avec quel joli sourire elle me donnait sa petite main en faisant la chaîne. Comme ses boucles châtaines sautaient gentiment en mesure sur sa petite tête, et comme ses petits pieds faisaient naïvement les jetés assemblés. À la quatrième figure, quand ma danseuse traversa et que je me préparais à faire cavalier seul, Sonia serra les lèvres d'un air sérieux et détourna la tête, tandis que j'attendais le moment de partir en mesure. Mais elle avait tort d'avoir peur pour moi. Je fis hardiment chasser en avant, chasser en arrière, balancer, et en m'approchant d'elle, je lui montrai gaiement le gant, avec deux doigts sortant par le trou. Elle éclata de rire de tout son cœur, et ses petits pieds glissèrent encore plus gracieusement sur le parquet. Je me rappelle aussi qu'au moment où nous faisions le rond, en nous tenant tous par la main, elle se pencha et frotta son petit bout de nez avec son gant, sans me lâcher. Je vois tout cela comme si j'y étais. Et j'entends le quadrille au son duquel ces choses se passaient. Je dansais la seconde contredanse avec Sonia. Quand je fus en place à côté d'elle, je me sentis atrocement embarrassé. Je ne savais absolument pas de quoi lui parler. Mon silence devenant par trop prolongé, j'eus peur qu'elle ne me prît pour un sot, et je résolus de la tirer à tout prix d'une semblable erreur. « Vous êtes une habitante de Moscou ?» lui dis-je en français. Ayant reçu une réponse affirmative, je poursuivis. « Moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale. » Je comptais beaucoup sur l'effet du mot « fréquenter ». Toutefois, je sentais qu'après ce début brillant, qui montrait combien j'étais fort en français, il me serait impossible de maintenir la conversation au même diapason. Ce n'était pas encore de longtemps notre tour de danser, et le silence avait recommencé. Je la regardais avec inquiétude, désireux de savoir quelle impression je produisais, et attendant qu'elle vînt à mon secours.
« Où avez-vous trouvé ce drôle de gant ? »
demanda-t-elle tout à coup. Et cette question me causa un plaisir et un soulagement extrême. Je lui expliquai que le gant appartenait à Karl Ivanitch, et je m'étendis avec une certaine ironie sur la personne de Karl Ivanitch. Je racontai combien il était grotesque quand il ôtait sa calotte rouge, comment il était tombé un jour de cheval avec sa redingote verte juste dans une mare, etc. Le quadrille passa comme un éclair. Tout cela était à merveille. Mais pourquoi est-ce que je me moquais de Karl Ivanitch? Aurais-je perdu la bonne opinion de Sonia si j'avais parlé de lui avec l'affection et le respect qu'il m'inspirait? Quand la contredanse fut finie, Sonia me dit « Merci » si gentiment qu'elle n'aurait pas pris un autre ton si elle m'avait dû de la reconnaissance. J'étais dans l'enthousiasme, hors de moi de joie. Je ne me reconnaissais pas. Où avais-je pris cette hardiesse, cette assurance, cette audace même? Rien au monde ne pourrait m'intimider, pensais-je, en me promenant avec insouciance dans la salle. Je suis prêt à tout. Serge me proposa de lui faire vis-à-vis. Bon, lui dis-je, je n'ai pas de danseuse, mais j'en trouverai une. Je parcourus la salle d'un regard résolu. Il ne restait plus de danseuse, excepté une grande demoiselle, debout à la porte du salon. Un grand jeune homme s'approchait d'elle, évidemment pour l'inviter. Il n'était plus qu'à deux pas, et j'étais à l'autre bout de la salle. Je glissai gracieusement sur le parquet, je volai, je fus devant elle en un clin d'œil, lui fis une révérence, et la priai d'une voix ferme de m'accorder la contredanse. La grande demoiselle sourit d'un air protecteur, me donna la main, et le jeune homme resta sans danseuse. J'avais tellement la conscience de ma force que je ne fis aucune attention au dépit du jeune homme. Je sus ensuite qu'il avait demandé qui était ce petit garçon ébouriffé qui lui avait pris sa danseuse sous son nez. Chapitre 17. La Mazurque. Le jeune homme à qui j'avais pris sa danseuse était du premier couple de la Mazurque. Il s'élança de sa place, tenant sa danseuse par la main, et, au lieu d'exécuter le « pas de basque », comme Mimi nous l'avait enseigné, il se contenta de courir en avant. Parvenu à l'angle opposé de la salle, il s'arrêta, écarta les pieds, frappa le parquet du talon, se retourna, fit un petit saut et reprit sa course. Je n'avais pas de danseuse pour la mazurque. Je m'étais assis derrière le grand fauteuil de grand-mère et je regardais. « Qu'est-ce qu'il fait donc ? » me disais-je. « Ce n'est pas du tout ce que Mimi nous a appris. Elle assurait que tout le monde danse la mazurque sur la pointe des pieds, en glissant et en faisant des ronds de jambes. Mais ce n'est pas du tout ça. Les Yvines, Étienne, ils dansent tous, et personne ne fait le pas de basque. Et Volodia a adopté la nouvelle manière. Ce n'est pas laid. Comme Sonia est délicieuse. Ah, c'est son tour. » J'étais parfaitement heureux. La mazurque tirait à sa fin. Quelques personnes âgées vinrent prendre congé de grand-mère et s'en allèrent. Les laquais traversaient la salle en évitant les danseurs, et portait avec précaution de quoi mettre le couvert dans les pièces du fond. Grand-mère était visiblement fatiguée, ne parlait qu'à contre-cœur et d'un ton traînant. Les musiciens recommençaient languissamment pour la 30e fois le même motif. La grande demoiselle avec qui j'avais dansé faisait la figure. Elle m'aperçut, sourit perfidement et vint à moi, sans doute pour faire plaisir à grand-mère, en amenant Sonia et l'une des innombrables Kornakoff. « Rose ou Ortie ?» me demanda-t-elle. « Ah, tu es là !» fit grand-mère en se retournant sur son fauteuil. « Va, mon ami, va !» J'avais plus envie de me cacher sous le fauteuil de grand-mère que d'aller. Mais comment refuser? Je me levai, répondis. « Rose !» et regardai timidement Sonia. Je n'avais pas eu le temps de me reconnaître qu'une main gantée de blanc se trouvait dans la mienne et que la jeune princesse Kornakoff se mettait en mouvement avec le sourire le plus engageant. Elle ne se doutait pas que je ne savais absolument que faire de mes jambes. Je savais que le « pas de basque » n'était pas à propos et qu'il pourrait même m'attirer un affront. Néanmoins, l'air connu de la mazurque, produisant sur mes nerfs auditifs une excitation familière, l'oreille transmit cette excitation aux jambes, qui se mirent involontairement à exécuter sur la pointe des pieds le pas fatal, avec glissades et ronds de jambes. On me considérait avec étonnement. En ligne droite, cela allait encore, mais je m'aperçus qu'au tournant, si je ne faisais pas attention, je me trouverais inévitablement en avant de ma danseuse. Pour éviter ce désagrément, je m'arrêtai, avec l'intention d'imiter ce que j'avais vu faire si élégamment au jeune homme du premier couple. Mais au moment même où j'allais sauter, la jeune princesse tourna précipitamment autour de moi et se mit à contempler mes pieds d'un air de curiosité bête et d'étonnement. Cela me perdit. Je me troublais au point qu'au lieu de danser, je piétinais sur place, de la manière la plus bizarre et pas même en mesure. Cela ne ressemblait à rien, et je finis par m'arrêter tout à fait. Tout le monde me regardait, qui avec surprise, qui avec curiosité, qui d'un air railleur, qui avec compassion. Ma grand-mère seule regardait avec une indifférence complète. « Il ne fallait pas danser, si vous ne saviez pas !» dit derrière moi la voix irritée de papa, et m'ayant écarté, il prit la main de ma danseuse, fit avec elle un tour à l'ancienne mode, ce qui lui valut un succès général, et la reconduisit à sa place. Au même instant, la mazurque finit. « Mon Dieu, pourquoi me punis-tu si cruellement ? Tout le monde me méprise, et me méprisera toujours !» Toutes les routes me sont fermées désormais. Amitié, amour, honneur, tout est perdu pour moi. Pourquoi Volodia me faisait-il des signes que tout le monde voyait et qui ne pouvaient me servir à rien? Pourquoi cette affreuse princesse regardait-elle comme ça à mes pieds? Pourquoi Sonia? Elle est bien gentille, mais pourquoi souriait-elle? Pourquoi papa a-t-il rougi et m'a-t-il pris par le bras? Est-ce qu'il aurait honte de moi? Oh, c'est affreux. Si petite maman était là, elle ne rougirait pas de son petit Nicolas. Mon imagination vole au loin vers cette chère image. Je revois la prairie devant la maison, les grands tilleuls du jardin, l'étang transparent sur lequel les hirondelles volent en rond, le ciel bleu semé de nuages blancs et diaphanes, les meulettes odorantes de foin nouveau, et beaucoup d'autres images paisibles, aux belles couleurs, qui flottent dans mon imagination troublée. Chapitre 18. Après la mazurque. Au souper, le jeune homme à qui j'avais pris sa danseuse se plaça avec nous à la table des enfants. Il s'occupait de moi d'une manière qui m'aurait infiniment flattée si j'avais pu être sensible à quelque chose après le malheur qui m'était arrivé. On aurait dit qu'il voulait à tout prix me remettre en train. Il me faisait des agaceries, me traitait de luron, profitait des instants où les grandes personnes ne nous regardaient pas pour me verser des vins variés qu'il me forçait à boire. À la fin du souper, quand le maître d'hôtel s'approcha avec une bouteille de champagne enveloppée dans une serviette et ne m'en versa qu'une goutte, le jeune homme insista pour qu'il remplît la coupe et me la fit boire d'un trait. Je sentis une chaleur agréable dans tout mon corps. Mon cœur se remplit de tendresse pour mon gai protecteur et je me mis à rire aux éclats. Tout à coup, la musique joua le grand-père. Et on se leva de table. Ce fut la fin de ma liaison avec le jeune homme. Il alla rejoindre les grands, et moi, n'osant le suivre, j'allais écouter ce que Madame Valakhin disait à sa fille. « Encore une petite demi-heure, » disait Sonia d'un ton persuasif. « C'est vraiment impossible, mon ange. Je t'en prie, fais cela pour moi, » insistait-elle d'une voix caressante.
« Est-ce que tu seras contente si je suis malade demain ?»
demanda Madame Valakhin, et elle eut l'imprudence de sourire.
« Tu veux bien, nous restons !»
cria Sonia en sautant de joie.
« Il faut bien faire ce que tu veux. Allons, va danser.
Tiens, voilà un cavalier !»
dit-elle en me montrant. Sonia me donna la main et nous courûmes vers la salle. Le vin que j'avais bu, joint à la présence de Sonia et à sa gaieté, me fit complètement oublier le triste dénouement de la mazurque. J'exécutai les pas les plus comiques. Tantôt j'imitais le cheval et j'allais au petit trot en relevant fièrement les pieds. Tantôt je piétinais en faisant le bélier qui tient tête à un chien. Et je riais de tout mon cœur, sans m'inquiéter le moins du monde de ce que pensaient les spectateurs.
Sonia ne cessait pas non plus de rire. Nous tournions en rond en nous tenant par les mains, et elle riait. Nous regardions un vieux barine qui enjambait lentement, comme si c'était un gros obstacle, un mouchoir tombé, et elle éclatait. Je sautais au plafond pour montrer mon agilité, et elle se tordait.
En traversant le cabinet de grand-mère, je jetai un coup d'œil dans le miroir. J'étais en nage, tout ébouriffé. Mes cheveux se tenaient plus en l'air que jamais. Avec cela, ma figure avait une si bonne expression, un tel air de santé et de joie, que je me plus.
« Si j'étais toujours comme en ce moment, » pensais-je, « je pourrais tout de même plaire. »
Mais quand je reportais mes yeux sur le joli visage de ma danseuse, j'y vis une beauté si délicate et si exquise, jointe à cette même expression de santé, de gaieté et d'insouciance qui m'avait plu chez moi, que je devins furieux contre moi-même. Je compris l'absurdité d'espérer que moi, je pourrais attirer l'attention d'une créature aussi merveilleuse. Non seulement je n'espérais pas de retour, mais je n'y pensais même pas. Mon âme n'en avait pas besoin pour déborder de bonheur. Je ne savais pas qu'au-delà du sentiment de l'amour qui inondait mon cœur de délices, il existe encore un bonheur plus grand, qu'on peut souhaiter quelque chose de plus que de ne jamais cesser d'aimer. J'étais content ainsi. Mon cœur battait comme celui d'un pigeon. Le sang y affluait sans cesse, et j'avais envie de pleurer. Nous suivions le corridor. En passant devant le cabinet noir de dessous l'escalier, je le regardais et je pensais « Quel bonheur, si je pouvais vivre toute ma vie avec elle dans ce cabinet noir, sans que personne sache que nous sommes là. »
« N'est-ce pas qu'on s'amuse bien ce soir ?»
dis-je d'une voix basse et tremblante, et je pressai le pas, effrayé moins de ce que j'avais dit que de ce que j'aurais voulu dire.
« Oh oui, beaucoup !»
répondit-elle en tournant sa petite tête vers moi, avec une expression si franche et si bonne que ma peur s'en alla.
« Surtout depuis le souper. Si vous saviez combien je suis fâchée,
je voulais dire triste, mais je n'osais pas, de penser que vous allez vous en aller et que nous ne nous reverrons plus.
« Pourquoi ne plus nous revoir ?»
dit-elle en regardant fixement le bout de ses souliers et en traînant son petit doigt sur un paravent en grillage devant lequel nous passions.
« Tous les mardis et les vendredis, nous allons nous promener en voiture, maman et moi, sur le boulevard Tverskoe. Est-ce que vous n'allez pas vous promener ?»«
Nous demanderons certainement à y aller le mardi, et si on ne me le permet pas, je me sauverai tout seul, nu-tête. Je sais le chemin. »
« Savez-vous une chose ?» dit tout à coup Sonia. « Il y a des garçons qui viennent à la maison, et je leur dis toujours « tu ». Disons-nous aussi « tu ». Veux-tu »
ajouta-t-elle en secouant la tête et en me regardant droit dans les yeux. À cet instant, nous entrions dans la salle où commençait une autre partie très animée du grand-père.
« Dansez-le avec moi, » dis-je, profitant d'un moment où la musique et le bruit pouvaient couvrir ma voix.
« Danse, pas danser, » dit Sonia, et elle éclata de rire. Le grand-père s'acheva sans que j'eusse réussi à placer une seule phrase avec « tu », bien que je n'eusse pas cessé d'en inventer, où « tu » revenait plusieurs fois. L'audace me manqua.
« Veux-tu ?
Danse !» Ces mots me résonnaient dans les oreilles et me grisaient. Je ne voyais rien ni personne, excepté Sonia. Je vis qu'on retroussait ses cheveux bouclés et qu'on les ramenait derrière les oreilles, découvrant ainsi les tempes et une partie de front que je n'avais pas encore vue. Je vis qu'on l'enveloppait de la tête aux pieds dans le châle vert, de sorte qu'on n'apercevait plus que son petit bout de nez. Je remarquai que si elle n'avait pas fait de ses petits doigts roses une ouverture en face de la bouche, elle aurait sûrement étouffé. Je vis qu'en descendant l'escalier derrière sa mère, elle se retourna vivement de notre côté, fit un signe de tête et disparut par la porte. Volodia, les Ivines, le jeune prince, nous étions tous amoureux de Sonia. Nous étions tous sur l'escalier à la suivre des yeux. Auquel de nous s'adressait le signe de tête? Je l'ignore. Mais en cet instant, j'étais fermement convaincu qu'il m'était destiné. En disant adieu aux Ivines, ce fut avec une parfaite liberté d'esprit et même une certaine froideur que je parlai à Serge et lui serrai la main. S'il comprit qu'à dater de ce jour il avait perdu et mon amitié et son empire sur moi, il est évident qu'il le regretta, quoiqu'il s'efforçât de manifester une indifférence complète. Pour la première fois de ma vie, j'avais varié dans mes affections, et pour la première fois, je sentais la douceur du changement. Il me paraissait délicieux de troquer un attachement passé à l'état d'habitude, et pour ainsi dire rebattu, contre un amour frais, plein de mystères et d'inconnus. En outre, cesser d'aimer et commencer à aimer le tout à la fois, c'est aimer deux fois plus fort qu'auparavant. Chapitre 19. Dans mon lit. Comment ai-je pu aimer Serge si passionnément et si longtemps ? Me disais-je une fois couché. Non, il n'a jamais compris, ni apprécié, ni mérité mon affection. Et Sonia, est-elle délicieuse? Veux-tu? À toi de commencer. Je bondis à quatre pattes en me représentant avec vivacité sa petite figure. Je tirai le couvre-pied par-dessus ma tête, m'enroulai dedans de façon à ne pas laisser une seule ouverture et me recouchai. Je sentis une chaleur agréable, et je me perdis dans des rêves et des souvenirs délicieux. Mes yeux regardaient fixement la doublure du couvre-pied piqué, et je la voyais aussi nettement qu'une heure auparavant. Je causais en pensée avec elle, et cette conversation, entièrement dépourvue de sens du reste, me procurait des jouissances indescriptibles, parce que les « tu » et les toits y fourmillaient. Ses rêves étaient si nets que le plaisir et l'émotion m'empêchaient de dormir et que j'avais besoin de partager avec quelqu'un mon trop-plein de bonheur. « Est-elle jolie ? » dis-je presque haut en me retournant brusquement sur l'autre côté. « Volodia, tu dors ? » ?»«
Non, » répondit-il d'une voix endormie.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
« Je suis amoureux, Volodia. Je suis tout à fait amoureux de Sonia. »«
Eh bien, quoi ? » répliqua-t-il en s'allongeant.
« Oh, Volodia, tu ne peux pas te figurer ce qui m'arrive. Tiens, je m'étais caché la tête sous le couvre-pied, et je la voyais comme si je la voyais, et je causais avec elle. C'est tout bonnement étonnant. Et sais-tu encore une chose ? Quand je suis là, couchée, et que je pense à elle, je deviens tout triste. Dieu sait pourquoi, et j'ai envie de pleurer. »
Volodia remua dans son lit.
« Je ne demanderai qu'une chose, continuai-je, être toujours avec elle, la voir toujours, et rien de plus. Et toi, tu en es amoureux ? Dis la vérité, Volodia. »
Tout étrange que cela soit, j'aurais voulu que tout le monde fût amoureux de Sonia et le raconta.
« Qu'est-ce que cela te fait ? » dit Volodia en retournant de mon côté. « Peut-être. »
« Tu n'as pas envie de dormir, tu fais semblant » m'écriai-je, remarquant à ses yeux brillants qu'il ne pensait pas du tout à dormir.
Je repoussai le couvre-pied et je repris.
« Parlons plutôt d'elle. N'est-ce pas qu'elle est délicieuse ? Si délicieuse que si elle me disait « Nicolas, saute par la fenêtre » ou « Jette-toi dans le feu », je te jure que je sauterai tout de suite et avec joie. Ah ! Qu'elle est délicieuse !
Ajoutai-je en me représentant qu'elle était là, devant moi. Et afin de bien jouir de son image, je me retournai brusquement sur l'autre côté et j'enfonçai ma tête sous l'oreiller.
« J'ai une envie terrible de pleurer, Volodia !»«
Nigoba ! »
dit-il en souriant. Après un instant de silence, il reprit.
« Je ne suis pas du tout comme toi. Si je le pouvais, je voudrais d'abord m'asseoir à côté d'elle et causer.
« Ah ! Tu en es donc aussi amoureux ! »
interrompis-je.
« Ensuite, poursuivit Volodia en souriant tendrement,
ensuite, je baiserai ses petits doigts, ses petits yeux, ses petites lèvres, son petit nez, ses petits pieds. Je la baiserai toute.
« Quelle sottise ! »
criai-je de dessous mon oreiller.
« Tu ne comprends rien !» dit Volodia d'un ton de mépris.
« Pas du tout, je comprends, et c'est toi qui ne comprends pas, et tu dis des bêtises !»
fis-je à travers mes larmes.
« Il n'y a pas de quoi pleurer, voyons !»«
Quelle fille !»
Chapitre 20. La lettre. Le 16 avril, près de 6 mois après la journée que j'ai décrite, mon père entra chez nous pendant la classe et annonça que nous partirions avec lui, le soir même, pour la campagne. À cette nouvelle, mon cœur se serra, et je pensai aussitôt à maman. La cause de ce départ imprévu était la lettre suivante. Petrovskoe, 12 avril. Il est 10 heures du soir. Je viens seulement de recevoir ta bonne lettre du 3 avril, et selon mon habitude, j'y réponds tout de suite. Fédor l'avait apportée de la ville dès hier, mais comme il était tard, il ne l'a donnée à Mimi que ce matin. Mimi, sous prétexte que j'étais souffrante et agitée, l'a gardée toute la journée. J'avais en effet un peu de fièvre, et pour te dire la vérité, voilà 4 jours que je ne suis pas bien et que je ne me lève pas. Je t'en prie, cher ami, ne t'effraie pas. Je ne me sens pas mal, et si Ivan Vassilitch le permet, je me lèverai demain. Le vendredi de la semaine dernière, j'étais sortie en voiture avec les enfants. Au moment d'arriver à la grande route, près de ce petit pont qui m'a toujours fait peur, la calèche s'est embourbée. Le temps était superbe, j'eus l'idée d'aller à pied jusqu'à la grande route pendant qu'on dégagerait la voiture. Arrivé à la chapelle, je me sentis très fatiguée et je m'assis pour me reposer. Mais comme il fallut près d'une demi-heure pour rassembler du monde et désembourber la calèche, j'eus froid, surtout aux pieds, car j'avais des bottines minces et je les avais mouillées. Après le dîner, je sentis des frissons et de la fièvre. Je continuai pourtant à aller et venir, et après le thé, je me mis à jouer à 4 mains avec Lyubotchka. Tu ne la reconnaîtras pas. Elle a fait des progrès. Figure-toi mon étonnement quand je m'aperçus qu'il m'était impossible de compter les temps. Je m'y repris à plusieurs fois, mais tout s'embrouillait dans ma tête, et j'avais comme un grand bruit dans les oreilles. Je comptais 1, 2, 3, et puis 8, 15, Je m'apercevais que je me trompais et pas moyen de compter juste. À la fin, Mimi vint à mon secours et me coucha presque de force. Voilà, mon ami, en détail, comment j'ai pris mal par ma faute. Le lendemain, j'ai eu la fièvre assez fort et notre bon vieil Ivan Vassilitch est venu. Il n'a pas quitté la maison depuis et il assure que je sortirai bientôt. Quel excellent homme! Pendant que j'avais la fièvre et le délire, il a passé la nuit à côté de mon lit, sans fermer l'œil. En ce moment, sachant que j'écris, il est allé trouver les petites dans le divan. J'entends qu'il leur raconte des contes allemands et qu'elles rient aux éclats. La belle Flamande, comme tu l'appelles, est ici depuis bientôt 15 jours, parce que sa mère est allée quelque part en visite, et me témoigne un vrai dévouement. Elle me confie tous ses secrets de cœur. Avec sa jolie figure, son bon cœur et sa jeunesse, il y aurait de quoi faire une fille charmante à tous égards, si elle était dans de bonnes mains. Dans le monde où elle vit, à en juger par ce qu'elle raconte, elle se perdra complètement. Il m'est venu à l'esprit que si je n'avais pas déjà bien assez de mes enfants, je ferais une bonne œuvre en la prenant chez moi. Lioubotchka voulait écrire, mais elle a déjà déchiré 3 feuilles de papier. Elle dit que papa est trop moqueur, que si elle faisait une faute, il la montrerait à tout le monde. Catherine est toujours aussi gentille, Mimi aussi bonne et aussi ennuyeuse. Parlons maintenant de choses sérieuses. Tu m'écris que tes affaires ne vont pas bien cet hiver et que tu seras forcé de prendre l'argent de Khabarovka. Comment peux-tu m'en demander la permission? Cela m'a paru tout singulier. Est-ce que ce qui est à moi n'est pas à toi? Tu es si bon, cher ami, que tu me caches la situation de tes affaires de peur de me faire de la peine. Mais je devine que tu as beaucoup perdu au jeu, et je te jure que je ne t'en veux pas du tout. Pourvu que les choses puissent s'arranger, n'y pense pas, je t'en supplie, et ne te tourmente pas inutilement. Je suis habituée à ne pas compter pour les enfants sur tes gains, ni même, ne m'en veuille pas, sur ta fortune. Je n'ai pas plus de plaisir quand tu gagnes que je ne suis fâchée quand tu perds. Je ne suis fâchée que de ta malheureuse passion pour le jeu, qui me vole une partie de ton cœur et m'oblige à te dire des vérités dures, comme en ce moment. Dieu sait pourtant si cela m'est douloureux. Je ne lui demande qu'une chose, c'est de nous préserver, non pas de la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté ? Mais de cette situation terrible où les intérêts des enfants, que je devrais défendre, seront opposés aux nôtres. Jusqu'à présent, Dieu m'a exaucé. Tu n'as pas dépassé la limite au-delà de laquelle nous serions contraints, soit de sacrifier une fortune qui n'est pas à nous, mais à nos enfants, soit de... C'est affreux, rien que d'y penser. Et ce terrible malheur nous menace toujours. Quelle lourde croix le Seigneur nous a donnée, là, à porter. Tu me reparles dans ta lettre des enfants, et tu reviens à notre vieille querelle. Tu me demandes de consentir à ce que tu les mettes en pension. Tu connais mes préventions contre les pensions. J'ignore, cher ami, si tu m'accorderas ma prière. Mais je te supplie, au nom de ton affection pour moi, de me promettre que jamais, ni pendant ma vie, ni après ma mort, si Dieu nous sépare, tu ne feras cela. Tu m'écris que tu ne pourras pas te dispenser d'aller à Pétersbourg pour nos affaires. Le Seigneur soit avec toi, mon ami. Pars et reviens le plus tôt possible. Nous nous ennuyons tant sans toi. Le printemps est superbe. On a déjà enlevé la porte du balcon. Le petit chemin qui mène à l'orangerie était tout à fait sec il y a 4 jours. Les pêchers sont en pleine fleur. Il ne reste que quelques plaques de neige par-ci, par-là. Les hirondelles sont arrivées et Lioubotchka m'a apporté aujourd'hui les premières fleurs. Le docteur dit que dans 3 jours, je serai tout à fait remise et que je pourrai aller me chauffer au soleil et respirer le bon air du printemps. Adieu, cher ami. Je t'en prie, ne t'inquiète ni de ma maladie ni de tes pertes. Termine au plus vite tes affaires et reviens-nous pour tout l'été avec les enfants. Je fais des plans magnifiques pour cet été. Il ne nous manque que toi pour les exécuter. » La suite de la lettre était écrite en français, d'une main inégale et presque illisible, sur un autre bout de papier. « Ne crois pas ce que je t'ai écrit de ma maladie. Personne ne se doute à quel point elle est sérieuse. Moi seule, je sais que je ne m'en relèverai pas. Ne perds pas une minute, viens et amène les enfants. Peut-être pourrais-je les embrasser et les bénir une dernière fois. C'est mon seul et dernier désir. Je sais quel coup cruel je te porte, mais, plus tôt ou plus tard, par moi ou par les autres, tu l'aurais toujours reçu. Tâchons de supporter ce malheur avec courage et d'espérer en la miséricorde de Dieu. Soumettons-nous à sa volonté. Ne t'imagine pas que ce que je t'écris là soit le délire d'une imagination malade. Au contraire, mes idées sont parfaitement nettes en ce moment et je suis tout à fait calme. Ne te berce pas du vain espoir que ce soit les pressentiments vagues et trompeurs d'une âme craintive. Non, je sens, je sais, et je le sais parce qu'il a plu à Dieu de me le révéler, que je n'ai plus que très peu de temps à vivre. Mon affection pour toi et pour les enfants finira-t-elle avec ma vie? Cela ne se peut. Mon cœur sent trop vivement en ce moment même pour croire que cet amour sans lequel je ne comprendrais pas la vie puisse jamais cesser d'être. Mon âme ne peut pas exister sans mon amour pour vous, et je sais qu'elle existera éternellement, ne fût-ce que parce qu'un sentiment pareil ne pourrait pas naître s'il devait jamais finir. Je ne serai plus avec vous, mais je suis fermement persuadée que mon amour ne vous quittera jamais, et c'est une pensée si consolante que j'attends la mort paisiblement et sans crainte. Oui, je suis calme, et Dieu sait que j'ai toujours regardé la mort comme le passage à une vie meilleure. Mais d'où vient que les larmes m'étouffent? Pourquoi priver des enfants de leur chère maman? Pourquoi te porter un coup si terrible et si inattendu? Pourquoi est-ce que je meurs quand votre affection me rendait si profondément heureuse? Que sa sainte volonté soit faite. Les larmes m'empêchent de continuer. Je ne te reverrai peut-être pas. Je te remercie, mon précieux ami, de tout le bonheur que tu m'as donné dans cette vie. Je demanderai là-haut à Dieu de t'en récompenser. Adieu, mon ami chéri. Souviens-toi que, si je n'y suis plus, mon amour sera toujours avec toi. Adieu, Volodia. Adieu, mon ange, mon Benjamin, mon petit Nicolas. Est-ce qu'ils m'oublieront? À la lettre était joint un billet de Mimi en français et ainsi conçu. Les tristes pressentiments dont cet ange vous parle n'ont été que trop confirmés par le docteur. Hier soir, elle avait donné l'ordre de porter tout de suite cette lettre à la poste. Croyant qu'elle avait le délire, j'ai attendu jusqu'à ce matin et je me suis décidé à l'ouvrir. À peine l'avais-je décachetée que Nathalie Nikolaïevna m'a demandé ce que j'avais fait de la lettre et m'a ordonné de la brûler si elle n'était pas partie. Elle ne cesse d'en parler et assure que cette lettre vous tuerait. Venez tout de suite, si vous voulez revoir cet ange avant qu'il nous quitte. Excusez ce barbouillage. Il y a 3 nuits que je n'ai dormi. Vous savez combien je l'aime. Nathalie Savichna, qui avait passé toute la nuit du 11 au 12 avril dans la chambre de maman, m'a raconté qu'après avoir écrit la première partie de sa lettre, maman l'avait posée à côté d'elle, sur la petite table, et s'était endormie. « Moi-même, disait Nathalie Savichna, j'avoue que je m'étais assoupie dans mon fauteuil et que j'avais laissé tomber mon tricot. Voilà qu'à travers mon sommeil, il pouvait être 1 heure du matin, je l'entends parler toute seule. J'ouvre les yeux, je regarde. Mon petit pigeon était assis sur son lit. Elle joignait ses petites mains, comme ça, et pleurait que ça faisait 2 ruisseaux. Elle dit encore « Alors, tout est fini ?» et cacha son visage dans ses mains. Je ne fis qu'un saut. « Qu'est-ce que vous avez ?»« Ah, Nathalie Savishna, si vous saviez qui je viens de voir. » J'eus beau lui faire des questions, je ne pus rien savoir de plus. Elle me dit seulement de lui approcher la petite table, écrivit encore quelque chose, fit cacheter la lettre devant elle et ordonna de la porter tout de suite à la poste. Depuis, ça a toujours été de plus en plus mal. »